Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Fréquence Mistral et je suis avec Jean Saraméa. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui on va parler de la Marseillaise, bientôt le 11 novembre en plus.
Bientôt le 11 novembre, en plus un centenaire. Et puis avec le sport du mois de juillet, on l'a entendu presque tous les jours. Donc, puis c'est l'hymne national qui est inscrit dans la Constitution, donc peut-être donner quelques éclairages.
Donc par qui a été composé?
Alors, Rouget de Lisle, qui était né à Lons-le-Saunier à la fin des années 1760, il a sa statue à Lons-le-Saunier. C'était un officier du génie de l'armée royale de Louis XVI. Et il avait d'ailleurs fait un séjour à Mont-Dauphin pendant quelques mois, là où l'armée l'appelait pour ses compétences. Mais quand il compose la Marseillaise, il est à Strasbourg.
Pourquoi la Marseillaise a changé de nom et comment s'appelait-elle auparavant?
Eh oui, alors Rouget de Lisle, né le 26 avril 1792. 4 jours plus tôt, la France, c'est-à-dire l'Assemblée législative et le roi Louis XVI, on est sous la monarchie constitutionnelle, ont déclaré la guerre à l'Autriche, c'est-à-dire aux frères de la reine, de Marie-Antoinette. Déclarer la guerre à l'Autriche parce qu'on sentait que plusieurs pays européens allaient essayer de détruire la Révolution. Donc c'est l'idée, on attaque les premiers. Voilà. Et puis c'est l'idée aussi d'apporter la liberté. L'Assemblée législative, donc on est quelques années après 1789, on décide d'aller libérer une partie de l'Europe, libérer de la tyrannie, des rois qualifiés de tyrans, de despotes, etc. Ce que n'est pas Louis XVI, puisqu'il a accepté officiellement la Constitution. Donc il est à Strasbourg et il compose un hymne destiné à donner courage aux jeunes soldats, les soldats citoyens, donc, qui arrivent, qui sont mobilisés. Et il va l'appeler le chant de guerre de l'armée du Rhin, puisque au bord du Rhin, c'est l'armée du Rhin. Chant de guerre de l'armée du Rhin. Voilà, on est fin avril 1792. Ensuite, elle est connue à Marseille fin juin. On pense que ce sont des colporteurs ou des commerçants. Il y a un axe commercial du Rhin jusqu'au port de Marseille. Ou alors des artisans, des compagnons du Tour de France qui font connaître ce chant, qui s'appelle toujours le chant de guerre de l'armée du Rhin, à Marseille fin juin. Et là, comme la guerre commence très mal pour la France, l'armée française n'est plus une armée de métier, donc les jeunes ne savent pas trop se battre. Donc la France est envahie. Et pour défendre la capitale, on fait appel à des volontaires de toutes les provinces. Les Bretons, les Gascons et les Provençaux. Et donc, le régiment de Marseille monte à pied jusqu'à Paris pendant le mois de juillet en chantant ce chant de guerre de l'armée du Rhin. Et lorsque fin juillet 1792, ce régiment de Marseillais entre dans Paris, il est follement acclamé par la population et la population entend cet hymne qu'elle ne connaît pas, et elle va l'appeler la Marseillaise, puisque c'est chanté par les volontaires qui arrivent de Marseille. Et ça va rester par la suite sous ce nom de la Marseillaise.
On va s'intéresser au texte maintenant. À aucun moment, le mot république est prononcé.
Et non. Alors d'abord, bien savoir qu'il y a 6 couplets et le refrain écrit par Rouget de Lisle. Pas un de plus. Dans beaucoup de revues, ouvrages divers et variés, on en trouve 8, 15, etc. Bon, on a imaginé d'autres couplets depuis plus de 2 siècles, mais Rouget de Lisle n'en a écrit que 6 dans la nuit du 26 avril. Et même le couplet 7, qui est la strophe des enfants, nous entrerons dans la carrière, etc., n'est pas de lui, mais il est d'époque. Alors, bien sûr, il n'y a pas le mot république, parce qu'on est sous la monarchie constitutionnelle. Donc, il n'est pas question de parler de république dans un hymne pour l'armée. Et puis surtout parce que Rouget de Lisle n'est pas républicain. Rouget de Lisle est monarchiste. Il est tout à fait d'accord avec la Révolution. C'est pour ça que la Marseillaise est aussi un hymne à la liberté. Mais Rouget de Lisle est un officier de Louis XVI et il est monarchiste. Et d'ailleurs, ça lui vaudra quelques ennuis par la suite.
Et aucune allusion non plus à la religion.
Oui, dans beaucoup d'hymnes européens ou dans le monde, il y a une allusion à la religion, quelque chose qui peut fédérer une population. Là, il n'en est pas question. D'abord, ce n'est pas le but, puisqu'il s'agit d'encourager des jeunes soldats à défendre leur patrie, et parce que la religion est quelque chose d'extrêmement délicat en 1792. Ça a fracturé la France, puisqu'il y a une partie des prêtres qui ont prêté serment à la Constitution, et une autre partie, ce qu'on appelle les réfractaires, ont refusé, sur l'ordre du pape, de prêter serment à la Constitution. Donc, ça fracture la France, ça fracture les communes et disons ce n'est pas le moment de faire appel à un quelconque sentiment religieux. Puis ce n'est pas vraiment le sujet. Alors quand il y a dans le couplet 6 « Amour sacré de la patrie », ce n'est pas un appel religieux, c'est pour dire amour fondamental, amour essentiel, amour indispensable de la patrie. C'est le seul mot, hein, amour sacré de la patrie, mais le mot sacré est un simple adjectif qui n'a pas de connotation religieuse spécifique.
Beaucoup de mots aussi renvoient à la privation, l'esclavage.
Oui, puisque non seulement on combat l'empereur d'Autriche, mais on va, tout au moins on espère, apporter la liberté, entre autres à la Belgique, qui appartient à l'Autriche, mais aussi aux États allemands de l'autre côté du Rhin, tout au moins c'est ce qu'on espère. Donc, en contrepoint, on parle de ce contre quoi on combat, donc la tyrannie, les phalanges mercenaires, les cohortes étrangères, les rois conjurés, la horde d'esclaves, les villes despotes, les tyrans. Il y a tout ce vocabulaire qui est l'opposition de la Révolution que l'on défend dans sa première mouture. On est en 1792, c'est pas encore la République, il n'y a pas encore eu la Terreur. Donc c'est la Déclaration des droits de l'homme du mois d'août 1789 et c'est la notion de liberté telle que 1789 essaye de, à la fois d'ancrer dans la population et de répandre en Europe.
Il y a le mot « citoyen ».
Ah oui, aux armes, citoyen. C'est un mot-clé. C'est vraiment un mot-clé parce que avant les Français étaient des sujets du roi. Depuis 1789, même si Louis XVI est toujours roi, il n'est plus roi de France, il est roi des Français. Et les Français sont citoyens. C'est une notion égalitaire, puisque tous les citoyens obéissent aux mêmes lois, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est le message clé révolutionnaire. D'ailleurs, pendant une dizaine d'années, fin des années 1790, on s'appelle citoyen, citoyenne, pour marquer qu'on est d'accord avec les idéaux de la Révolution. Donc aux armes citoyens, ça a deux connotations. D'une part, on n'est plus des sujets, on est des citoyens. Et comme on est des citoyens libres, un peu comme dans la Rome républicaine ou dans l'Athènes de la Grèce antique, le citoyen doit défendre sa patrie. Donc la patrie est menacée. La patrie risque d'être envahie, donc le citoyen doit défendre sa patrie. Donc, alors qu'avant, pour schématiser, dans les armées françaises jusqu'en 1789, on combat pour le roi. On ne combat pas pour la France. On combat pour le roi. Désormais, on combat pour la France. Voilà, c'est un changement fondamental. Mais la première phrase du refrain, c'est vraiment le message clé, aux armes citoyens.
Elle a été de nombreuses fois reprise par plusieurs chanteurs et certains mots posent problème, apparemment.
Alors, le sang impur. Donc, donnons l'interprétation historique exacte, qui évidemment est complètement oubliée, et c'est normal, plus de deux siècles après, mais c'est en se replongeant dans le contexte qu'on peut éclairer un texte. À quoi pense Rouget de Lisle quand il parle du sang impur ? Ce sont des Français traître et rien d'autre. Il n'y a aucun racisme dans l'esprit de Rouget de Lisle quand il parle du sang impur. Ce sont les aristocrates émigrés, ce n'est pas toute la noblesse. Les aristocrates émigrés, dès l'été 89, ont quitté la France pour prendre les armes, combattre les révolutionnaires et rétablir la monarchie absolue. Donc c'est quelque chose d'éminemment politique. Ce sont donc des traîtres. Et depuis l'Antiquité, tout traître est impur. Tout traître souille la patrie. Donc tout traître doit être éliminé. C'était le cas dans la Grèce antique, dans la Rome antique. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, quelqu'un qui fait des études fait ses humanités, comme on dit. C'est-à-dire que Rouget de Lisle, entre autres, ceux qui étudient sont pétris de l'histoire de la Grèce et de la Rome antique. Et un traître, ben, dans les armées, un traître comme un espion, il est jugé et en général exécuté. Mais il n'y a pas d'autre allusion. Et dans chacun des cinq premiers couplets, il y a plusieurs vers contre les traîtres. L'opprobre de tous les partis, perfide, parricide, tigre sans pitié, et traître, c'est dans le couplet 2, traître. Bon, ce ne sont pas les ennemis. Les ennemis, on en parle dans chacun des couplets, mais il y a le couplet 5. Épargner ces tristes victimes à regret s'armant contre nous. C'est-à-dire que, comme on est censé apporter la liberté au peuple voisin, le soldat autrichien est un mercenaire qui a été enrôlé, mais qui ne combat pas pour la liberté, il combat pour son souverain. À partir de là, c'est une victime du despotisme. Donc le couplet 5, on connaît peu parce qu'il n'est pas officiel, est très original. Soldat français, épargnez le plus possible l'adversaire. L'adversaire, c'est un pauvre diable qui ne connaît pas la liberté, et vous allez lui apporter. Par contre, les tigres, les traîtres, les parricides, les perfides, etc., ceux-là, il ne faut pas les manquer.
Ah oui.
Voilà.
Moi, je vous propose, Jean, qu'on fasse une pause musicale, justement, qu'on écoute la Marseillaise.
Pourquoi pas ? Alors, le premier couplet et le refrain sont extrêmement connus. Je rappelle que le couplet 6 est officiel. On l'entend quelquefois le 14 juillet. C'est le plus beau message, le couplet 6, parce que c'est amour sacré de la patrie et l'invocation à la liberté. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. C'est une invocation à l'antique, le couplet 6. On invoque la déesse liberté, on invoque la déesse victoire. D'ailleurs, on met souvent une majuscule à liberté et à victoire. Et ce couplet 6, qui est officiel, je le rappelle, a été traduit par le sculpteur Rude au début, disons dans les années 1830, lorsqu'on a terminé l'Arc de Triomphe. C'est le bas-relief qui est le plus connu de l'Arc de Triomphe, c'est le départ des volontaires. Et ça décrit exactement le couplet 6. La liberté guide le soldat citoyen qui défend sa mère patrie.
C'est parti, on écoute la Marseillaise.
Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sont grand élevées. Les tendances sont grand élevées. Entendez-vous en nos campagnes, rugis et féroces soldats, qui viennent. Liberté, liberté chérie.
Jean Saraméa pour parler de la Marseillaise.
Alors, quelques mots sur ce couplet 7 qui n'est pas de Rouget de Lisle. On pense que c'est un prêtre de Vienne, dans la région lyonnaise, qui, en juillet 92, aurait, en voyant souvent la jeunesse de ces soldats provençaux qui montent de Marseille, aurait imaginé ce qu'on appelle la strophe des enfants. Ce n'est plus du tout dans l'état d'esprit du XXe siècle. Hein. C'est quelque chose de la Grèce antique, sous-entendu, les enfants imiteront leurs parents, continueront leur engagement, mais faire chanter à des jeunes maintenant, bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cergueil.
Certaines paroles sont...
Ce n'est plus trop dans la morale, même citoyenne, actuelle, disons. À la limite, on défend la France menacée, mais on ne cherche pas spécialement à mourir comme les parents. Mais ça faisait partie de l'enjeu de 1792, où en même temps on cherchait à inculquer une morale patriotique et citoyenne.
Voilà. D'ailleurs, l'abbé Pierre a voulu faire changer.
Oui, l'abbé Pierre avait, avec d'autres et des intellectuels dans les années 70-80, il voulait absolument soit qu'on supprime les paroles, au fond l'hymne espagnol n'a pas de paroles, et c'est bien l'hymne du pays, ou bien qu'on supprime les paroles, ce qui enlève l'aspect militaire et militariste pour certains, ou bien que l'on fasse une Marseillaise beaucoup plus tournée vers la liberté dans le monde. Donc il y a eu des pétitions, il y a eu des discours enflammés. À partir du moment, et c'est le cas de quasiment tous les hymnes sur la planète, à partir du moment où un hymne est reconnu, où un hymne est inscrit...
Cela fait partie de la culture, notre histoire, en fait.
Où ça symbolise un pays. On le prend tel qu'il est. Après, chacun... Imaginez, il y a un siècle, pour la guerre 14-18, quand un soldat français chantait le sang impur, le sang impur, c'était l'ennemi, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Lorsqu'il y a eu les attentats et que, pour la deuxième fois de son histoire, la première c'était en 1918, toute l'assemblée se lève pour chanter la Marseillaise, c'était donc en 96, au mois de novembre. Quand on chante le sang impur, ce sont les terroristes. Donc, le sang impur, selon les époques et selon ce que pense soit un groupe, soit chacun, sera décliné en fonction des drames ou des pensées du moment. C'est ainsi que vit un texte d'histoire. Voilà. Mais une fois qu'un hymne est le symbole d'un pays... On le prend tel qu'il est. Ou bien il n'y a plus de paroles, ou bien on le garde. Mais il n'est pas question de changer les paroles. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays qui l'aient fait dans leur histoire.
Son rythme, lui, a changé au cours
de
l'histoire.
Oui, alors on a bien sûr la partition de Rouget de Lisle, ou les toutes premières partitions avec le titre d'origine. Le rythme est un peu différent. Il y a quelques notes différentes. C'est un rythme plus lent. Et d'ailleurs, le président Valéry Giscard d'Estaing avait voulu retrouver le rythme d'origine. Ça avait tellement déboussolé à la fois les militaires et les Français qui entendaient quelque chose qui n'était pas dans leur mémoire, qu'au bout de quelques mois, on est revenu à... Alors, il y a deux orchestrations. Une orchestration de l'époque romantique, c'est Berlioz. Lors de la révolution de 1830, puisqu'à chaque révolution, la Marseillaise ressortait, l'orchestration romantique a été abandonnée parce qu'il faudrait un orchestre d'au moins 100 musiciens, c'est assez compliqué. Donc, c'est à la fin des années 1880 qu'on a demandé à Ambroise Thomas, qui était le directeur, je crois, du Conservatoire de Paris, d'orchestrer la Marseillaise sur un rythme militaire, mais sans petite exagération. Et c'est cette orchestration d'Ambroise Thomas, je crois, pour le centenaire de la Révolution 1889, d'après ce que j'ai lu, qui est officielle. Voilà.
Cette Marseillaise a aussi été interdite à un moment dans l'histoire.
Eh oui, c'est qu'elle a toute une histoire. Donc, sous la Révolution, elle devient très vite un des hymnes officiels. Mais comme il n'y a pas le mot République, le chant du départ, qui a été écrit en 1794, donc 2 ans après, où le refrain c'est « La République nous appelle ». Le chant du départ est quasiment à égalité avec la Marseillaise, l'hymne officiel. Alors, Napoléon Ier n'aime pas trop la Marseillaise, parce que toutes ses allusions aux tyrans, aux despotes, etc., il le prend un petit peu pour lui, et elle est interdite sans l'être totalement. Disons, ce n'est plus un hymne officiel, mais dans certaines batailles, Napoléon fait jouer la Marseillaise parce que ça motive les soldats. Voilà. Selon un rythme, donc, militaire. Après, lors de la Restauration, donc à partir de 1815, les deux rois de la première Restauration, Louis XVIII et Charles X, l'interdisent strictement en tant qu'hymne républicain et on risque sa vie si on chante la Marseillaise, en public évidemment. C'est pour ça qu'elle ressort lors des révolutions de 1830, qui met fin à la Révolution, à la Restauration, et lors de la Révolution de 1848, qui met fin à la monarchie de Juillet, la Marseillaise ressort spontanément parce que la population l'a mémorisée. Elle est chantée par des colporteurs. On connaît cet hymne. Après, Napoléon III l'interdit tout à fait strictement, donc elle va ressortir, mais pas seule, lors de la proclamation de la Troisième République, septembre 1870. Pendant pas mal d'années, MacMahon n'aime pas trop la Marseillaise. Donc c'est lorsque la Troisième République est dirigée par des républicains, à partir de 1879, que ces républicains prennent deux décisions majeures. Le 14 juillet devient la fête nationale et la Marseillaise devient l'hymne national. Voilà. Et justement, ce n'est pas trop révolutionnaire. On prend le premier couplet qui parle aux Français des années 1870, parce qu'on a été envahis par les Prussiens en 1870. Et comme il n'y a pas le mot république, que ce n'est pas quand même exagéré, que c'est un hymne à la patrie et à la liberté, c'est consensuel. Aussi bien les paysans, les artisans, la bourgeoisie, il n'y a plus que quelques monarchistes qui sont un peu chagrins d'entendre la Marseillaise. Mais elle va devenir donc l'hymne éminemment républicain, sans qui est le mot république. Et depuis 1879, elle a toujours été l'hymne officiel. Même pendant la période de l'État français, la Marseillaise est chantée, enfin en zone sud, elle est évidemment interdite par l'occupant allemand, mais beaucoup de résistants chantent la Marseillaise, entre autres. Beaucoup de résistants chantent la Marseillaise avant d'être fusillés. Et même dans les camps de concentration en Allemagne, la Marseillaise est connue. Et connue par tous les peuples européens qui s'y rencontrent. Tout au moins la musique, tout au moins le chant, même si les paroles ne sont pas toujours connues. Donc c'est très émouvant de savoir que même à Auschwitz, la Marseillaise est connue et chantée par les déportés. Hymne à la liberté, moins à la patrie, dans ce cas-là.
Et aujourd'hui, elle déchaîne encore...
À partir du moment où un hymne est le symbole d'un pays, si on s'oppose à l'État, y compris à l'intérieur de la France. Si on s'oppose à l'État, on peut refuser de la chanter, voire la siffler. Ça a été le cas lors d'un célèbre match de foot en Corse, où le président Jacques Chirac, furieux, s'est levé et a quitté les tribunes. Après, quand il s'agit de d'un sport avec rencontre internationale, si c'est un pays qui, organise son vivre ensemble autour d'un ressentiment historique contre la France, une partie de sa jeunesse refuse et d'écouter et évidemment de chanter la Marseillaise. Il est évident que dans le domaine sportif, c'est le symbole de la France, mais en même temps, des sportifs chantant ces paroles, ça peut paraître un petit peu hors sujet. Mais bon, c'est l'hymne de la France. Voilà. Alors, la Marseillaise a fait le tour du monde. Lorsque les pays d'Amérique latine, Venezuela, Colombie, Mexique, etc., se décolonisent, c'est les années 1810-1820. Ils chantent la Marseillaise en espagnol. Lorsque la Hongrie, lors de la révolution de 1848, cherche à s'émanciper de la tutelle autrichienne, il y a la Marseillaise hongroise. Lorsque l'Italie cherche à faire son unité, à partir de 1840 surtout, il y a la Marseillaise. J'ai les paroles de la Marseillaise. Et évidemment, ce n'est pas la traduction exacte des paroles françaises, mais il y a la Marseillaise en italien. Il y a des compositeurs allemands, je pense à Schumann, à l'époque du romantisme, qui mettent des partitions de la Marseillaise dans leurs chants. Ça veut dire qu'ils sont à la fois patriotes, côté allemand, et en même temps pour les libertés. Par contre, quand Tchaïkovski fait très beau morceau musical à l'ouverture 1812, il met la Marseillaise, mais cette fois, c'est pour rappeler que Napoléon a été vaincu en Russie. Donc, la Marseillaise, bizarrement, est le symbole de Napoléon, alors que Napoléon n'en voulait pas, Napoléon Ier. Et dans ouverture 1812, c'est l'hymne du tsar qui prend de l'importance petit à petit sur la Marseillaise, ou dans ce cas-là, c'est l'invasion française qui est surmontée par l'armée russe. Donc, la Marseillaise est vraiment, depuis plus de deux siècles, un symbole historique qui a dépassé et de loin les frontières de la France.
Bientôt donc le 11 novembre.
Et oui, en plus un 11 novembre centenaire. Hein. Donc, cela fait partie des commémorations, évidemment.
Ah non, vous serez déjà reparti.
Ah oui, et étant basé à Saint-Raphaël, on met au point une très importante cérémonie le 8 avec plus de 120 scolaires de la commune au carré militaire du cimetière de la ville. Pas le monument aux morts, ça c'est le 11 novembre, mais le carré militaire. Comme il y a un carré militaire à Briançon, c'est-à-dire ce ne sont pas les habitants du lieu qui sont morts au front, ce sont des blessés ou des malades qui sont morts de leurs blessures, de retour du front dans la commune. C'est souvent cela le symbole du carré militaire.
Et il y a en ce moment aussi une exposition.
Ah oui, à ne pas manquer.
Le 159e.
Tout à fait, on dit le 15-9 souvent à Briançon. C'est une magnifique exposition, vraiment allez la voir, c'est l'après-midi.
Jusqu'au 13 novembre.
C'est réalisé par ce fantastique collectionneur sur le Briançonnais, sur diverses époques historiques, pas uniquement la Première Guerre,
ah oui,
la deuxième aussi, c'est Monsieur le Maître, que je connais bien. Et c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. C'est à la fois une mémoire et une mémoire par les objets, puisqu'il a collectionné chez lui des centaines d'objets à valeur historique. C'est vraiment fantastique. C'est, je peux dire, très rare en France. Ça existe ailleurs, hein, mais très rare en France. On n'a pas ça à Saint-Raphaël, et c'est bien dommage, d'avoir quelqu'un d'aussi passionné et d'aussi impliqué dans la mémoire historique. C'est vraiment magnifique.
Il organise également trois conférences sur les plantes dans la Grande Guerre, se nourrir dans la Grande Guerre et le service de santé dans la Grande Guerre.
Oui, très
donc
bon
c'est au
sujet.
Centre d'art contemporain, place
très
d'armes
bon sujet.
Dans la vieille ville.
Il y en a une samedi soir, hein, samedi prochain. je serais déjà descendu à Saint-Raphaël parce qu'il faut préparer énormément de choses en liaison avec pas mal d'associations et avec la commune, bien sûr. Et je reviens avec grand plaisir, j'espère bien, début avril ou peut-être...
Après la neige, vous allez louper la neige.
Oui, ben oui, je ne recherche pas spécialement la neige. Et à mon âge, les sports d'hiver sont peut-être moins conseillés. Mais je loue des raquettes, comme en avril dernier, où c'était bien nécessaire d'ailleurs pour faire de belles marches dans un paysage.